Top. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, une nouvelle série de cours sur Shmirat HaLashon, c'est-à-dire le fait de surveiller sa bouche, sa langue, de ne pas critiquer autrui. Comme on le sait que c'est interdit par la Torah de critiquer n'importe quelle personne. Mais auparavant, on va d'abord débuter, on va commencer par expliquer quelle est l'importance de la parole de l'être humain, l'importance de chaque mot, ainsi que l'importance de chaque action, chaque pensée, et l'importance, la valeur de l'être humain en général. Quelle est l'importance, quelle est la valeur de l'être humain? Alors, on connaît tous le verset de la Torah dans Bereshit qui nous dit « Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim Baraoto, Vechenktiv ki Betzelem Elohim Asa et Adam. » C'est-à-dire que Hachem a créé l'homme à son image. « Betzelem Elohim Asa et Adam » Bon, ça nous est un peu complexe et difficile de définir ce que c'est vraiment, c'est des notions plutôt mystiques. Mais le Rav ici explique de façon terre à terre qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Betzelem Elohim Asayet Adam. Il va aussi expliquer pourquoi on emploie ici le terme de Elohim. Non pas le terme de Hachem, mais le terme de Elohim. Alors, c'est expliqué dans ce livre-là que Elohim, c'est un nom qui va désigner Baal Akochot Kulam. C'est-à-dire que Hachem, il a une puissance, une force qui est infinie. C'est lui qui dirige le monde entier. Pas toutes les planètes, les milliards d'étoiles, les galaxies, tout ce qui se passe, c'est dirigé par Hachem et c'est dirigé constamment. C'est-à-dire que Hachem a créé le monde et non pas qu'il lui a donné un coup de pied qui s'en fiche, qui sait plus ce qui se passe, comme l'avaient prétendu certains grands philosophes, mais Hachem s'occupe de ce monde constamment. Ce qu'on dit dans la Tfila tous les jours, Amchadesh betuvo bechol yom tamid ma'ase bereshit. C'est-à-dire qu'Hachem, comme s'il renouvelle tous les jours la création du monde. C'est-à-dire qu'il a une force, une puissance inouïe qui nous dépasse, et le monde entier tient sur cette force, cette volonté, constamment, dans toutes les galaxies, dans n'importe quel coin du monde, sur Terre. Top. Lorsque Hachem a créé l'être humain, la Torah nous dit « Betzelem Elohim Asayet Adam ». C'est-à-dire Hachem, il a créé l'homme à son image. Et on emploie ici le terme de « Elohim ». Pourquoi? Alors, explique Nefesh HaChaim. Lorsque Hachem a créé l'homme, eh bien, il a voulu lui confier aussi une force inouïe, des capacités, des facultés gigantesques qui dépassent notre imagination. C'est-à-dire qu'Hachem a créé l'homme, mais l'homme n'est pas un petit pion sur terre, mais l'homme est en train de tout diriger, de tout régir. Ce qu'on va expliquer, c'est que, apparemment, bon, on se rend compte, oui, que l'homme agit dans ce monde-là, mais, bon, il agit comme n'importe quelle créature, on va dire. Alors, bon, les animaux aussi agissent, se nourrissent, dévorent d'autres animaux, ont aussi beaucoup d'actions, beaucoup de choses dans leur vie qu'ils réalisent. L'être humain, évidemment, à un niveau plus élevé, réalise beaucoup plus de choses, à un niveau plus moral, intellectuel, spirituel, mais cependant, c'est plus ou moins limité à ce qu'on voit. Là, la Torah nous enseigne, il faut se rendre compte que ce n'est pas cela. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il se passe des choses gigantesques que tu ne te rends pas compte. Lorsque tu es en train de parler, de penser, d'agir, tu es en train d'agir dans les mondes célestes, dans les mondes divins, bien plus que tu imagines. Alors bon, bien qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes célestes, mais on va essayer de donner un aperçu pour essayer de prendre conscience. De prendre conscience qu'en effet, chacune de nos actions, de nos paroles et nos pensées ont un impact sur tout ce qui se passe dans le monde entier, sur Terre, ainsi que dans les mondes célestes. Top. Alors, on va amener à cela deux exemples. Un exemple de l'histoire juive, et aussi un exemple de la vie courante. Alors bon, on est bientôt à Hanouka, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un rapport entre Hanouka et Purim. Alors, dans la fête de Purim, la Gemara raconte la chose suivante, l'histoire suivante. C'est que lorsque Haman a décrété d'exterminer les juifs dans le monde entier, en une journée. Top. Alors, Eliyahu Hanavi a rencontré Mordechai. Enfin, c'est plutôt Mordechai qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Et Mordechai a dit à lui un avis, a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe au ciel? Est-ce qu'au ciel, il y a eu un décret sur le peuple juif ou pas? S'il n'y a aucun décret sur Am Israël, alors Haman ne fait pas peur. Il est en train de baratiner du matin au soir. La veille du décret, il aura une crise cardiaque, autre chose, et puis terminé. Et puis Achashverosh, c'est pareil. Mais si un décret au ciel, il y a en effet lieu de prendre peur. Et bien, Navi lui a dit, en effet, il y a un décret au ciel, un réel décret d'anéantir tout Am Israël. Bien qu'en fait, il y a une promesse de ne jamais anéantir tout Am Israël, alors il était question de rester, de laisser Esther en vie et de faire renaître un nouveau Am Israël à partir d'Esther. Et là, évidemment, Mordechai a pris peur. Et tout de suite, il a réuni 22 000 enfants dans la ville de Shushan pour les faire prier, étudier, etc. Et puis il a envoyé Esther chez le roi. Il a fait un décret de ne pas de jeûner 3 jours et 3 nuits dans tout Israël. Bon, comme on connaît l'histoire. Et ensuite, ils ont été sauvés. Un miracle s'est produit. Top. Alors, qu'est-ce que cette Gemara veut nous dire? Cette Gemara nous dit la chose suivante. C'est que il faut savoir comment est-ce que les choses se déroulent. Lorsque nous faisons certaines avérotes sur terre, certaines actions interdites, certains péchés que la Torah interdit, alors ces fautes, elles montent au ciel, et elles vont agir dans le monde céleste d'une telle ou telle façon. Donc à savoir en l'occurrence, la Gemara nous raconte que 9 années auparavant, avant le décret de Haman et de Achashverosh, eh bien, les Bnei Israël ont fait certaines fautes. Bon, il y a plusieurs avis. Il y avait une faute, c'est qu'ils ont participé au festin de Achashverosh. Deuxième faute, ils se sont prosternés à des idoles. Et troisième faute, c'est que lorsque Achashverosh, pendant le festin, a sorti les ustensiles du Beth Amikdash pour s'en servir, eh bien, ils se sont tus, ils n'ont rien dit, ils avaient peur de lui, ils n'ont pas protesté. Alors, pour ces fautes-là, eh bien, le décret de Haman et Achashverosh est survenu, et comme dit, n'est-ce pas, c'est survenu 9 années plus tard. Alors, bien souvent, Hachem nous laisse un sursis. Des fois, il y a un décret qui survient quelques années après que la faute a été commise. Des fois, il faut chercher loin pour trouver la vera, la faute qui a été commise. Donc, une fois que cette faute a été commise, alors bon, ces fautes-là montent au ciel, ça a provoqué un décret au ciel sur Am Israël. Alors, on a décrété au ciel bien avant que Achashverosh et Haman aient pensé à cela, au ciel, on a déjà décrété d'anéantir Am Israël. Terminé. À part Esther. Alors ensuite, pour réaliser ce décret, on va chercher sur terre un cobaye. Un cobaye qui va s'appeler Haman, ou alors Esav, ou alors Paro, ou alors Hitler, ou alors Saddam Hussein, ou Arafat, etc. Dans toutes les générations, eh bien, une fois que le décret a été donné, lancé, proclamé au ciel, à cause de nos avérots, de nos fautes, on cherche un rachat sur terre qui lui est prêt, parce que, bon, il a une haine contre un Israël, et il va mettre ce décret sur pied. Et c'est ce qu'on fait à Haman et Achashverosh. Et pour démolir cela, pour transformer ce décret, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle la tshuva, la Torah, la tefila, les mitzvot, comme l'ont fait Mordechai et Esther, parce qu'ils ont organisé une tshuva générale de tout un Israël, qu'ils ont pris conscience de leur avérot, ils ont fait tshuva, etc. Bon, comme on connaît l'histoire. Et ensuite, en effet, le décret a été annulé. C'est-à-dire que ce qui se passe sur terre est régi et dirigé par nous. C'est-à-dire que nos actions, bonnes et mauvaises, nos paroles, bonnes et mauvaises, même nos pensées, bonnes et mauvaises, vont ériger tout ce qui va se passer sur terre. Bon, ça provoque ce qui se passe au ciel. Bon, là, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui se passent au ciel, on ne les connaît pas. Le Zohar en parle beaucoup, c'est la mystique, on ne comprend pas. Mais on sait, n'est-ce pas, que ça fait comme un boomerang sur terre, ça s'est projeté ensuite sur terre pour amener tel ou tel décret ou telle bonne nouvelle sur Am Israël. Donc, c'est ce que dit le Nefesh HaChaim, c'est que l'être humain doit prendre conscience de l'impact de ses actions, de l'importance de la parole, de la grande, la lourde responsabilité qu'Hachem lui a confiée. Tout ce qui se passe sur terre va dépendre de toi. Alors, il est évident que bon, il y a l'importance de la collectivité, mais aussi l'importance de l'individu. Une personne peut aussi provoquer un bouleversement général, comme l'ont fait d'ailleurs Mordechai et Esther, qui étaient deux personnes, ils ont une influence capitale sur tout un Israël, et ils ont, grâce à ça, sauvé un Israël. Maintenant, juste un petit exemple pour se rendre compte concrètement, matériellement, que ça existe aussi sur Terre de nos jours. De nos jours, avec le progrès et la technologie, alors on peut se rendre compte que tu fais une petite action, de rien du tout, ça peut provoquer des dégâts terribles. Alors, par exemple, tu peux appuyer sur un bouton, ou alors bouger une manette et provoquer la mort de quelqu'un. Même la mort de milliers ou de millions de personnes, comme ce qui s'est passé pour la bombe atomique. Imaginez que dans l'avion, un avion qui lance une bombe atomique, eh bien, quelqu'un dit à son camarade, eh bien, tu n'as qu'à bouger ce levier, appuie sur ce bouton. Et l'autre ne sait pas ce qui se passe, il appuie sur le bouton, et il ne s'est même pas rendu compte qu'il a envoyé une bombe atomique sur un pays entier. Il a fait des dégâts terribles, des millions de morts, des millions de blessés. Entre parenthèses, c'est des fois des gens disent que, bon, le Shabbat, je veux bien, le Shabbat. Normalement, le kiddush, la synagogue, c'est bien, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est interdit d'allumer la lumière. Ce n'est pas un travail, n'est-ce pas? Ça ne va pas me fatiguer. Pourquoi, n'est-ce pas, si je prends de la voiture, c'est interdit alors que si je marche 2 heures à pied, je vais être plus fatigué que si je vais en voiture en 10 minutes. Alors ce n'est pas aussi. C'est qu'il ne faut pas regarder ça avec une vision, une optique qui va être plus ou moins restreinte. Il faut voir cela avec une optique qui va s'appeler spirituelle. C'est que lorsque tu appuies sur un bouton, alors bon, tu es en train de réaliser un contact électrique, et automatiquement c'est une melacha, ça va affecter ton âme, ta neshama. C'est le langage du corps et pas le même langage de la neshama. Comme un enfant dirait appuie sur un bouton ou alors lever une manette, je ne comprends pas comment est-ce que ça peut provoquer des millions de morts. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'un grand physicien chimiste qui sait ce qui se passe, c'est quoi une bombe, etc., eh bien, ils pourront le comprendre et lui expliquer. Par aussi, c'est que lorsqu'on est en train d'expliquer c'est quoi un travail Shabbat, il ne faut pas se référer à des références qui sont matérielles, qui concernent uniquement le corps. Mais il faut se référer à la neshama. La neshama, elle a notre langage. Pour la neshama, eh bien, c'est une melacha qui est grave, qui va affecter notre âme. Donc, fin de la parenthèse, c'est que donc on se rend compte que des fois tu fais une action dans ce monde-là, tu appuies sur un bouton et tu as fait des dégâts terribles. Des fois c'est le contraire, pas. Tu as fait une petite action et tu as fait quelque chose de très bénéfique, très efficace. Alors pareil aussi et encore plus lorsqu'il concerne notre neshama par rapport à la Torah, les mitzvot, la tfila. Ce que nous dit le Nefesh HaChaim, c'est qu'on doit prendre conscience que chacune de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, ont un impact capital, gigantesque, sur nous-mêmes, notre neshama, notre âme, ainsi que sur le monde entier. C'est pourquoi la Torah nous dit « Betzelem Elohim Asait Adam ». Hachem a créé l'homme à l'image de Dieu, à son image. Alors, toute proportion gardée, mais ça veut dire que l'être humain aussi, il a une force. Comme on l'a dit, Elohim, eh bien, c'est un terme qui vient désigner la puissance, la force inouïe d'Hachem dans le monde entier. C'est Hachem qui dirige, qui tient toutes les étoiles, les galaxies, etc. Eh bien, Hachem a confié une force, une responsabilité, des facultés qui sont semblables à celles d'Hachem, qui ressemblent à celles d'Hachem. Betzelem Elohim Asait Adam. Il t'a créé à son image. Tu as une certaine ressemblance avec Dieu, avec Hachem. Et c'est pourquoi on emploie le terme de Elohim et non pas Hachem, parce que ce terme Elohim, c'est un terme qui vient précisément désigner que Hachem, il a toutes les forces, des forces infinies dans le monde entier. Et bien toi aussi, selon le contexte, le pays dans lequel tu vis, et bien tu as des forces qui dépassent ton imagination. Ta parole, ton action, ta pensée a un impact non seulement sur toi, sur ta famille, ton entourage, mais aussi sur le monde entier et aussi sur les mondes célestes. chapitre 3, on te dit le Tselem Elohim Asa et Adam. On dit tous les matins dans la fila, un verset dans Tehilim, Tenu Oz l'Elohim. Traduction, donner de la force, de la puissance à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que nous, on peut donner de la force à Hachem? On peut donner de la force à Hachem dans la mesure où nous allons contribuer à véhiculer le dévoilement du nom d'Hachem, la connaissance d'Hachem, la gloire d'Hachem, la présence d'Hachem dans ce monde. C'est-à-dire que Hachem nous a donné une mission parmi tant d'autres missions. C'est dans ce monde-là, un monde qui est matériel, un monde dans lequel la présence d'Hachem nous paraît voilée, pas le monde, on vient en hivrite, Olam. Olam zimin Hachon, Elem, c'est-à-dire c'est caché. Dans ce monde-là, tout est voilé, tout est dissimulé, tout est caché. La présence d'Hachem, on ne s'en rend pas compte a priori. Notre devoir, c'est de véhiculer cette prise de conscience qu'Hachem est parmi nous. Hachem dirige le monde. Et dans cette optique-là, dans cette dimension, Tenu Oz Elohim, on arrive comme à donner une force, une puissance à Hachem, puisque Hachem a décidé de se dévoiler comme ci et de ne pas se dévoiler comme cela. Donc, il est plus ou moins caché dans ce monde-là, mais il attend de nous qu'on vienne proclamer sa présence dans ce monde-là. Et dans cette mesure-là, on a la faculté, la possibilité de donner de la force, de la puissance à Hachem. C'est aussi, n'est-ce pas, une des forces inouïes, extraordinaires que Hachem nous a confiées dans ce monde-là. Alors ensuite, par ensuite, le Nefesh Haim nous dit, Vezot Torah Adam. Il dit que voilà, pas voici la Torah de l'homme, la Torah Milashon Hora'a. C'est-à-dire, c'est la façon de se diriger. Aliomar Belibo Chazé Shalom, Kimani Umakochi Lif'ol Bemaasash Felim Shuminyan Baolam. Ne pas dire, ne pas considérer qu'est-ce que je suis. Quelle est ma force? Qu'est-ce que je peux réaliser dans ce monde-là avec mes actions qui sont si insignifiantes et si basses? Il dit c'est faux. Omnam yavin v'yeda v'ikbab marchevot libo shekol pratem ma'asav v'dibora marchevotav kol et v'rega loit avidu chas shalom. Mais au contraire, il faut comprendre, savoir, prendre conscience et vraiment imprégner cette prise de conscience dans les pensées de son cœur, que chaque petit détail de ses actions, de ses paroles et de ses pensées, chaque instant, ne sont jamais perdus. « Umarabu ma'asav, umeod gadlu veramu, shekolachat ola kifi shorsha, lif'ol peulata, begove moramim, baolamot, vetzartzachot, aorot, aelionim. » C'est-à-dire que, en effet, chaque action, chaque parole, chaque pensée, elle est très grande, elle est multipliée, elle est très élevée, puisqu'en effet, chacune, selon sa base, sa racine, elle va agir dans les mondes célestes. Bon, encore une fois, ce sont des notions qui sont un peu mystiques, un peu inconnues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit, il y a plusieurs termes ici, Marabou, Gadlou, Veramou. C'est-à-dire que chaque action, chaque parole, elle a une importance. Une importance telle que tu lui donnes, qu'elle tu la considères. Alors, on te dit tout d'abord, attention, c'est faux. Parce que c'est plus important que tu imagines. L'action en soi, sa valeur absolue, en soi, elle est plus importante que tu ne peux imaginer. Comme on l'a dit, les exemples, que appuyer sur un bouton, alors bon, tu penses que c'est uniquement appuyer sur un bouton, tu bouges ton doigt de quelques centimètres, mais on te dit, attention, c'est plus important que cela. Pourquoi? Parce que c'est relié à un fil électrique. Parce que c'est relié à une bombe atomique. Parce que c'est dirigé vers telle cité, etc. On part aussi. Ta neshama, ton âme, elle est en relation. Elle est en relation avec un monde spirituel, un monde céleste. Et quand tu es en relation avec ce monde-là, automatiquement, tout ce que tu vas faire, c'est plus important. Je vais en faire une parenthèse. Il explique plus loin que l'âme, alors il y a plusieurs appellations. Nefesh, neshama. Alors, réellement, il y a plusieurs parties dans l'âme. Notre corps est composé du corps humain et de l'âme. Mais cette âme, elle a plusieurs noms. Nefesh, Ruach, Neshama. Bon, il y a encore Hayechida, mais bon, c'est d'autres notions qu'on avait lorsqu'Adam Arishon a été créé, on les a perdus avec la faute. Top. Un nefesh, voire neshama. Nefesh, c'est la partie, on va dire, peut-être la plus basse de l'âme. Et elle se situe notamment, essentiellement, au niveau du sang et du foie. Bon, c'est dans l'être humain aussi, mais c'est nefesh qui a d'amour nefesh. Top. C'est là où il y a tous les instincts, les sensations, etc. Ruach. Ruach, c'est une partie plus élevée de l'âme qui se situe essentiellement au niveau du cœur. Belev, l'ibouche de la dame, bah, le cœur. Et ce ruach, c'est quoi? C'est la volonté, l'initiative, le fait d'entreprendre, de réaliser certaines choses dans la vie, l'ambition, l'aspiration. Ça, c'est ruach. Neshama, qui est la partie la plus élevée, elle se situe au niveau de l'esprit. Mais là encore, nous dit le Rav que cette neshama, c'est uniquement la partie antérieure, la partie inférieure qui réside dans notre cerveau. Alors que la grande partie de cette neshama, eh bien, c'est comme si elle est au-dessus de l'être humain. C'est comme s'il y a un fil spirituel conducteur qui te relie au ciel. Et donc cette neshama est reliée au ciel. Cette neshama est emboîtée dans le ruach dans nefesh, et nefesh dans le corps. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a un rapport constant entre même ton corps et ta neshama, entre ton corps et le ciel. Parce que ton corps est lié à cette âme qui s'appelle nefesh, le nefesh à ruach, ruach à neshama, et neshama au monde céleste. Bon, encore une fois, c'est des notions qui sont mystiques, complexes, mais sans trop vouloir approfondir, l'idée qui nous est dégagée d'ici, c'est que, attention, tu ne vis pas dans un monde qui est uniquement terrestre, matériel. Tu n'es pas déconnecté du monde spirituel, du monde divin. Mais tu es en rapport constamment avec tout cela. Je répète encore l'exemple, c'est que, parce qu'on dit, bon, je veux bien, tu me dis ça, mais moi je ne vois pas ce fil qui relie pas mon cerveau au ciel, je ne le vois pas. Tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Comme tu ne vois pas aussi quand tu prends un téléphone ou alors un portable, tu ne vois pas que tu envoies en quelques secondes des ondes qui vont faire 10 000 ou 20 000 km. Tu sais, malheureusement, on est tellement habitué qu'on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Non, mais croyez-moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On dit en hybride, un portable, ça s'appelle téléphone. 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 Pélé, traduction veut dire extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pélé chez vous phone. C'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire que tu peux, avec un petit gadget de rien du tout, tu peux en quelques secondes, en appuyant sur quelques touches, parler avec quelqu'un qui se trouve à 10 000, 20 000 km et tu peux le repérer là où il est dans le monde. Que ce soit en Australie ou en Amérique, tu le repères chaque fois. On est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais si avec un petit gadget de rien du tout tu peux le faire, alors avec ton cerveau encore plus, avec ton corps encore plus. C'est, je donne quelques exemples. J'ai entendu un grand professeur en Israël qui s'appelle Chaim Ziegler, un grand physicien. Il avait ramené quelques exemples pour expliquer, montrer la complexité infinie du corps humain. La complexité infinie du corps humain. Alors, il avait ramené que, bon, des exemples, des petits exemples qui sont bien connus, qu'avec les globules qui sont dans le sang d'une seule personne, on peut faire 60 000 km. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont alignées, elles sont tellement fines, pas des microns de millimètres, elles sont assez larges, de quelques millimètres, assez longues. Alors, si on les aligne, les globules d'une seule personne, on peut faire 60 000 km. À savoir une fois et demie le tour de la Terre. Alors bien que là aussi, entre parenthèses, on ne s'en rend pas compte, pas, tu vois du sang, tu ne vois pas ici des milliards de globules. Attention, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est bien différent. Bien différent. Il y en a un autre exemple, il avait lu même d'un livre, d'un grand scientifique en Amérique. Il a dit la chose suivante, il faut que je ramène la référence bien évidemment. Il avait dit la chose suivante, c'est que la cellule humaine est extrêmement complexe. Il avait ramené qu'elle est 45 000 fois plus complexe que l'ordinateur le plus sophistiqué au monde qui lui peut réaliser 1 milliard d'opérations à la seconde. Enfin, je répète, la cellule humaine est 45 000 fois plus complexe que l'ordinateur le plus sophistiqué au monde, qui réalise 1 milliard d'opérations à la seconde. Ça a été prouvé scientifiquement. Et entre parenthèses aussi, j'ai entendu juste cette semaine que notre corps, combien a-t-il dans le corps humain? Il y a 14 avec 21 zéros cellules. Donc ça fait, n'est-ce pas, 14 000 milliards de milliards de cellules dans un corps humain. Et chacune a une telle complexité. Alors je répète, c'est que si avec un gadget, un téléphone, tu peux parler avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, alors Chol Sheken, encore plus avec ton cerveau qui est tellement complexe que tu pourras être en contact, en communication, avec Hachem dans la tfila, avec des mondes célestes, quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une avera, comme l'a dit Eliyahu HaNavi à Mordechai, comme Mordechai le savait, que Israël parlera à Averot, eh bien, ils ont détruit des mondes au ciel. Comme tu détruis avec une touche, et pas une manette, un bouton, tu peux détruire une ville, un pays entier. Bien que tu ne t'en rends pas compte, mais ça se passe, ça se réalise. Par aussi, ton corps, ton âme, ton nefesh, Ruach Neshama, il est en train d'agir, de réagir, de réaliser, de détruire, de construire de façon que tu ne peux pas imaginer. Et ce que dit ici le Rav, c'est que Marabouk, Magadoum, Od, Raoum, Massaf, c'est que chaque opération, chaque action, elle a un impact, une influence que tu ne peux pas imaginer parce qu'elle est reliée à des mondes célestes. Elle est reliée à des éléments, des mondes, des choses que tu ne peux pas savoir. Mis à part cela, il y a l'influence indirecte. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu dis, tu parles, tu as aussi une influence sur ton entourage. Ton entourage. Mis à part ce que tu as réalisé en tant qu'individu personnel, solitaire, par rapport à toi, à ton corps, ton âme, l'influence positive ou négative que tu as eue, et par rapport au monde céleste, il y a aussi une influence, un impact par rapport à ton entourage, à ta famille, à tes camarades, à ton voisinage, etc. Alors là, ce n'est pas difficile de s'en rendre compte. On se rend compte très bien que si quelqu'un se conduit mal, alors automatiquement, ça va influencer les autres. On n'aime pas laisser les enfants traîner, fréquenter des enfants qui sont mauvais, qui sont effrontés, qui sont insolents, qui sont durs, qui sont cruels. Pourquoi ? Ça peut te faire. Parce que tu es conscient que si ton fils, ta fille, a fréquenté pendant quelques semaines, quelques mois, tel enfant qui est mauvais, eh bien, il va être transformé, il va être influencé. C'est une réalité. Parce que c'est une nature humaine qu'on est influencé de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Enfin, ça s'appelle le concept de mimésie. L'être humain a une nature de vouloir imiter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Et lorsqu'on est enfant, encore plus. Alors c'est pourquoi on préserve nos enfants de fréquenter de bons camarades. On préserve les enfants de ne pas fréquenter des mauvais camarades, mais plutôt de fréquenter des bons camarades. Pourquoi ? Parce qu'on est conscient de cette influence qu'il va avoir. Alors par aussi, c'est que tout ce que tu vas faire, ça va avoir une influence sur les gens qui t'entourent. Alors dans le domaine de la conduite, dans le domaine des midot, des qualités, des défauts, et aussi évidemment dans le domaine de la Torah, de la tfila, des mitzvot. Tu vois quelqu'un qui fait une belle tfila, ça te donne envie. Quelqu'un au contraire qui va massacrer cette tfila, alors tu es aussi influencé que tu veux ou non. Entre parenthèses, c'est écrit que c'est pourquoi, c'est aussi encore une des raisons pour lesquelles ce qu'on va faire dans la Torah, les mitzvot, c'est tellement important parce que tu peux très souvent avoir une influence bénéfique, positive sur ceux qui vont t'entourer, même sans leur dire un mot. Par exemple, tu as fait une mitzvah, quelqu'un t'a vu, il a été émerveillé de la façon dont tu as fait la mitzvah. Parce que tu l'as bien fait, bien réalisé, dans la perfection, dans la simcha, dans la joie, etc. Et grâce à ce spectacle auquel il a assisté, eh bien, il a voulu aussi faire la mitzvah, ou faire la trila, ou alors même grâce à toi, il a fait tshuva sans que tu lui dises un mot. Eh bien, toutes les mitzvot qu'il va faire ensuite grâce à toi, eh bien, elles te reviennent. C'est-à-dire que l'influence positive que tu as eue sur lui, eh bien, tu as un mérite qui te revient en totalité parce que c'est toi qui l'as provoqué. Aussi inversement, c'est que si on a une influence négative, eh bien, on est aussi Hachem va aussi nous reprocher pourquoi est-ce que tu as une influence négative sur ta famille, ton entourage. C'est pour ça que dit le Rav, c'est que ta attention, tes actions, ta parole, ta pensée, ça a une influence aussi sur les gens qui vont te côtoyer, qui vont te voir, qui vont t'entendre. Parce que l'influence que tu auras sur eux, grâce à toi, ils vont faire des mitzvot. Grâce à toi, ils vont bien se conduire. À cause de toi, ils vont mal se conduire. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il dit que Marabout, ça c'est la multiplication de l'action. Ça, c'est l'influence de ce que tu as fait. Ça fait comme boule de neige. Ça va avoir une influence positive ou négative à ceux qui vont t'entourer. De la même façon que l'action est importante, la parole aussi est vraiment très importante. Et elle est importante vraiment dans plusieurs dimensions, plusieurs domaines. Comme on l'a expliqué sur le monde céleste, sur l'être humain, sur la neshama, sur l'entourage. On va citer un point important sur, en ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Pensez bien que la Torah a une valeur vraiment très très grande. Bon, on en parlera peut-être chez notre cours. Et la Tfila aussi, et la mitzvah aussi. Maintenant, nous dit le Zohar Kadosh, attention, c'est que ta Torah et ta Tfila sont très importantes, c'est vrai. Mais il faut aussi les préserver. Il faut les conserver. C'est-à-dire que, des fois, pas. Alors tu gagnes des millions et tu les mets dans les poches, mais les poches sont trouées, il ne reste rien. Toutes les pièces, elles tombent, une après l'autre, parce que les poches sont trouées. Eh bien, ça peut arriver aussi pour la Torah et les mitzvot et la tefila. Parce que si on a les poches trouées, il ne reste rien. Qu'est-ce qui va, en effet, nous trouer les poches, par le temps des mitzvot, dit le Zohar Kadosh, c'est notamment, surtout, le Lashon Hara. Pourquoi? Bon, le Lashon Zohar Kadosh nous dit, celui qui dit du Lashon Hara, eh bien, sa tefila ne rentre pas dans le palais royal d'Hachem. Elle ne rentre pas. Elle est arrêtée auparavant, plutôt. Pourquoi? Parce qu'en effet, eh bien, il y a Ruach Tum'a, comme un esprit mauvais, impur, qui va envelopper, entourer cette Torah, cette fila, pour l'empêcher de rentrer chez Hachem. On va expliquer. Prenez un machal. Imaginez que vous faites un cadeau à quelqu'un. Un cadeau. Un beau cadeau, qui vaut vraiment quelques milliers d'euros. Mais ce cadeau, vous l'avez mis dans une boîte qui est moisi, qui sent mauvais, qui est troué, déchiré. Et vous l'avez. Alors ce cadeau, il a beau valoir des millions, il va vous le jeter par la fenêtre. Il va être offensé, vexé. Par contre, si vous donnez à quelqu'un un cadeau, qui vaut pas une grande valeur, un petit cadeau, mais dans une jolie boîte, avec un joli emballage, avec un ruban, avec un gentil mot, ce cadeau va être apprécié. Dit le Chavetz Chaim, c'est pareil aussi. La plupart de nos mitzvot, on les fait par notre bouche, notre langue, nos lèvres. La Torah, on la prononce, on la lit avec notre bouche. La Tfila, pareil. On mange la matzah avec notre bouche. Les repas de Shabbat Yom Tov, c'est aussi une mitzvah, on fait avec la bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette bouche, elle a été salie par le Lashon Hara? Alors c'est comme si tu as pris un cadeau qui vaut une valeur infinie. La Torah, les mitzvot, c'est une valeur infinie, mais tu les as amenés, donnés à Hachem dans un emballage qui était moisi, qui sentait mauvais. La bouche, elle est pleine de Lashon Hara. Ce cadeau n'est pas accepté. Cette Torah, cette fille-là, elle ne pénètre pas. Les poches sont trouées, il ne reste rien. C'est terrible, il ne reste rien. Ce qui est important, c'est qu'il ne reste rien de la Torah et des mitzvot. Alors que si tu as un peu de Torah et des mitzvot, bon, il faut avoir beaucoup, mais pas, c'est mieux d'avoir le maximum. Même si on a un peu, cette Torah, tu l'as préservée, tu l'as conservée, tu as une bouche qui est propre, tu as une langue qui est nickel. Jamais de critique, jamais de calomnie. Pas, tu fais attention aussi de ne pas vexer personne. Ta bouche, elle est propre, c'est une bouche en or. Ta parole, c'est de l'or. Eh bien, cette Torah, cette fila que tu as, même si tu n'as pas beaucoup, eh bien, tu l'as bien emballée. Cette Torah, elle pénètre, elle est acceptée chez Hachem. Ça, c'est l'importance du respect de la parole. C'est que le respect de la parole, on verra encore, c'est important en soi, en valeur absolue. Maintenant, on a expliqué l'importance de la parole par rapport à ta Torah et tes mitzvot, par rapport à tout ce que tu fais toute ta vie par rapport à Hachem. C'est pourquoi c'est si important. Et dans ce même ordre d'idée, nous dit le Midrash qui est ramené dans la fameuse lettre du Gaon Mivilna, c'est que lorsque quelqu'un a envie de dire du Lashon Hara, on a envie de critiquer quelqu'un, on a envie de lancer une blague, une plaisanterie, et puis bon, pour sur le compte du camarade, n'est-ce pas? Alors on va lui faire honte devant une dizaine de camarades, mais tout le monde va éclater de rire, alors on ne s'empêche pas de le dire. Alors dit le Midrash, si tu arrives à te maîtriser et de ne pas dire cette parole que tu as envie de dire, bien que ça va te donner de la gloire, pas de l'honneur, une certaine satisfaction, eh bien tu bénéficies. Adam Neena le Oraganuz chez Enkol Malach Veberia Yochemcher. Tu bénéficies à cet instant-là d'une lumière divine que n'importe quelle créature au monde, n'importe quel ange au monde ne peut pas imaginer quelle est la grandeur, la puissance de cette influence divine. Telle est l'importance, l'impact de la parole. Dimanche prochain, le prochain cours de la chaîne. Là-dessus.